Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos médias partenaires au Niger. La drépanocytose est une maladie des globules rouges caractérisée par la présence d'une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S. Elle se caractérise par une anémie chronique et une sensibilité accrue aux infections. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les troubles de l'hémoglobine sont un problème de santé important. La drépanocytose touche 23,2% de la population nigérienne, a déclaré le ministre de la Santé Idi Iliasu lors de la célébration de la 10e journée internationale de lutte contre la drépanocytose de 2019, célébrée chaque 19 juin. Notre forum aujourd'hui a pour thème « Comment la femme travailleuse et drépanocytaire exerce-t-elle son travail ?» Comment vivre avec la maladie et être femme au travail? Nous tenterons d'apporter les réponses en compagnie du docteur Marie Ousseini, pédiatre au Centre national de référence de prise en charge de la drépanocytose, en compagnie de madame Ramatou Abdelkarim, une mère travailleuse avec un enfant drépanocytaire, et enfin de Adamou Younous Leila, une femme drépanocytaire active. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Rafika Taher à la présentation. Nous allons tout d'abord commencer par vous, docteur. Parlez-nous un peu de la drépanocytose.
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler de cette maladie connue à travers le monde entier, mais qui reste toujours ici dans nos pays mal connue du fait du manque de sensibilisation assez étendue et qui fait que jusque-là, c'est une maladie qui est toujours relié aux tradis praticiens, également à nos coutumes. Donc la drépanocytose, comme vous l'avez dit, est une maladie héréditaire et génétique, donc qui se transmet lorsque les deux parents sont atteints, sont porteurs sains, c'est-à-dire ils sont porteurs du trait drépanocytaire. Donc en ce moment, ils peuvent donner un enfant qui est porteur d'un syndrome drépanocytaire majeur. Donc nous avons trois types ici au Niger, mais il existe plusieurs formes dans le monde entier. Et ici, nous avons les plus fréquents, qui est la plus fréquente, qui est la SS. Nous avons la deuxième forme, qui après la SS, qui est la SC. Et la troisième forme, dont nous avons une infime partie de nos patients qui présentent la S-bêta-thalassémie. Voilà les trois formes que nous gérons au quotidien au niveau du centre. Et il faut savoir que la maladie est synonyme de douleur, d'anémie à répétition, de complications avec l'âge qui peuvent survenir. Et c'est une maladie pluridisciplinaire, comme je le disais, parce qu'elle peut atteindre tous les organes au niveau du corps. Donc ce qui fait que c'est une maladie qui a besoin de toutes les spécialités en fonction des complications que présente le patient.
On continue toujours avec vous, docteur. Quelles sont les capacités physiques d'un drépanocytaire?
Les capacités physiques d'un drépanocytaire, comme je vous avais dit, c'est un patient qui à tout moment peut présenter des douleurs. Donc je vous ai dit que ce sont les maîtres symptômes qui permettent la découverte même de la maladie. Donc le patient peut à tout moment, il peut être un patient qui est bien portant, bien réveillé, qui est en train de jouer et que tout d'un coup, qui commence à sentir déjà des signes de la crise survenir. Donc ça réduit un peu les activités diurnes du patient, et ou bien l'anémie qui est chronique chez eux et qui peut s'aggraver au décours d'une infection ou liée à un paludisme ou une autre infection. Donc le patient peut être bien portant et que brutalement il se sent fatigué, il n'a pas envie de manger, il perd l'appétit, ainsi de suite. Les signes se succèdent et puis là, il vient consulter au centre. Pour résumer, si le patient est vraiment bien suivi au niveau des centres hospitaliers et qu'il prend régulièrement son traitement, il peut avoir une qualité de vie quand même assez normale. Mais c'est toujours ce qu'il faut comprendre, que c'est des patients sur qui il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur chez eux, parce que le moindre stress peut déclencher une crise chez eux. D'accord. Merci.
Madame Leila, vous travaillez dans quel secteur?
Merci beaucoup à l'Studio Klangou de nous inviter ici pour venir exprimer ce qu'on ressent avec la maladie et le travail. J'ai le master 2 en gestion des projets et programmes de santé. Je suis au niveau du district Niamey. comme cervicar là-bas.
De quelle forme de drépanocytose souffrez-vous?
Je suis drépanocytaire ultra SS, je suis SS.
D'accord. À quelle fréquence est-ce que vous avez des crises?
Moi, je fais des crises presque 2 mois, si je peux le dire, chaque 2 mois.
Et comment est-ce que vous vivez ces crises?
S'il y a la crise, on part au centre, on se fait traiter là-bas. On se fait traiter, ça dépend. Des fois, on peut faire jusqu'à 2 semaines, on est là-bas, jusqu'à plus même. Parce que la dernière fois, j'étais aussi, depuis février jusqu'en avril, si je peux le dire, j'étais souffrante. Avec des admissions à répétitif. Si on nous relâche 2-3 jours, on revient. Tout ça là, c'est pas facile du tout.
D'accord. Donc, vous êtes active professionnellement. Comment est-ce que vous vivez la maladie et la vie professionnelle avec tout ce que vous venez de nous dire?
Avec la maladie, là, ça nous empêche vraiment de travailler. Parce que, avec la maladie qu'on vit depuis le bas âge jusqu'à maintenant, quand même, on arrive à étudier. Mais avec tout ça, là, à la fin de nos études, on a des difficultés pour avoir du travail. Parce que dès qu'on part, on se présente, on dit qu'on est drépanocytaire, les gens ne nous prennent pas, surtout les privés. Surtout les privés, ils ne nous prennent pas. Parce qu'ils vont dire, s'ils nous prennent, il faut obligatoirement qu'ils prennent une autre personne. D'accord. Parce qu'on ne peut pas venir à chaque fois travailler, on est tous les temps malades. Les gens, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui nous comprenne.
Avec toutes ces conséquences entre crise et inconfort du quotidien, la maladie force à composer avec le monde du travail, bien sûr. Avez-vous la compréhension de votre employeur?
Maintenant, quand même, oui. Mais quand même, j'ai eu à avoir des difficultés avant avec le travail, jusqu'à ce que j'étais obligée, c'était un contrat, de résilier ce contrat-là. Parce que ma patronne, elle ne comprenne pas. Parce que dès que je tombe malade, je suis au centre, j'amène mes papiers, elle ne comprenne pas. Elle dit toujours que je suis en train de mélanger le travail, ses plannings. Vous voyez, donc vraiment.
Qu'en est-il de votre employeur actuel?
Bon, pour l'employeur actuel, je peux dire alhamdulillah, parce que dès le premier jour, je l'ai amené mes papiers, elle a tout vu, elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je suis malade, il faut juste l'informer. Et c'est ce qu'on fait, parce que même la dernière fois, ça ne fait pas 3 semaines. D'un seul coup, je me suis réveillée, je me suis même habillée pour venir au travail. En 1 minute, j'ai déclenché des crises. Donc, on était obligé de l'appeler pour lui dire que vraiment, il y a les crises. On m'a amené au centre.
D'accord. Docteur Marie, je vais revenir sur la question précédente que je vous ai posée. Avec la situation de Madame Leïla, est-ce qu'on doit normalement les mettre au même niveau?
Vous savez, comme elle avait dit, en matière de privé, c'est une obligation de résultat. Donc, pour eux, ils ont pris, c'est un fonctionnaire, elle perçoit le même salaire, elle doit être aussi active que ses collègues. D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier quand la personne est drépanocytaire, vraiment, il faut une bonne compréhension quand même de ses supérieurs hiérarchiques. Et on a eu plusieurs cas de plaintes où parfois ils disent que non, c'est du cinéma que la personne joue, ce ne sont pas des crises, c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Ils ne sont pas toujours compris. Donc, du coup, je me dis que c'est vraiment pas facile. Si la personne a une bonne coopération de ses collègues, parfois, ça peut passer inaperçu parce que le patron ne va pas toujours se rendre compte. Mais s'il y a vraiment un contact direct avec le patron, c'est très difficile. J'en connais beaucoup qui travaillent. Et parfois, ils sont couverts par leurs collègues. Parfois, si c'est le patron direct, c'est vraiment pas facile de les comprendre. Et ils reviennent toujours nous demander des certificats médicaux qu'on délivre. Mais malgré ça, les patrons refusent. On délivre pour qu'ils sachent que de telle date à telle date, ils étaient hospitalisés. Mais malgré tout, ils ne les comprennent pas. Ils finissent toujours par abandonner le travail.
D'accord. Par exemple, est-ce que le centre procède parfois à une sensibilisation des employeurs qui ont du mal à croire en la maladie?
Effectivement, dans ce sens, nous essayons quand même, parfois, nous, médecins, de prendre le numéro de responsable pour lui expliquer. Parfois, s'il est sensible, il comprend. Mais parfois, ce n'est pas forcément tout le monde qui est compréhensible. Mais ce que nous incitons très souvent dans nos discussions avec les associations, c'est d'aller vers ces gens. Parce qu'avec la charge de travail qu'on a au centre, on ne peut pas s'adonner à toutes ces tâches. On a des missions qui sont bien précises, donc il faut qu'on accomplisse ces missions. Donc, on fait des séances de sensibilisation, et cette année, d'ailleurs, on avait prévu d'essayer de sensibiliser dans tous les secteurs de l'État pour qu'ils comprennent ces patients. En dehors de ça, on allait partir vers le privé aussi, pour essayer, même si ne serait-ce que nous accorder 15-20 minutes pour faire des séances de sensibilisation à l'endroit de ces patients pour qu'ils les comprennent et qu'ils puissent coopérer avec eux dans le cadre du travail.
Nous allons maintenant écouter les témoignages des femmes qui expliquent leur situation de mère d'enfant drépanocytaire.
J'ai des enfants qui sont malades de la drépanocytose. Ils sont au nombre de 3. Malheureusement, ces derniers jours, c'est la période de leur crise. Présentement, 2 sont malades. L'une de mes enfants est née avec la maladie. Elle a commencé à se manifester 3 jours seulement après sa naissance. Et depuis, nous souffrons tous, y compris son père. C'est à peine qu'on trouve le sommeil. Elle est tout le temps malade.
J'ai des enfants souffrant de la drépanocytose. J'avais un qui avait SS, qui est décédé à l'âge de 17 ans. Une fois en état de crise, on nous donne des calmants. On nous dit de lui donner un comprimé. Si ça persiste, de lui donner 2. Si ça ne se calme pas, de l'amener au centre. Si c'est grave, on l'hospitalise.
Je fréquente le centre pour le suivi de mes enfants qui souffrent de la drépanocytose. La difficulté que nous rencontrons, c'est quand la crise se déclenche. Avec 2 à 3 enfants, on a du mal à se procurer le médicament, surtout la nuit. Si l'enfant a moins de 5 ans, le prélèvement est gratuit, mais les médicaments, on doit payer et c'est très cher. Ici, tout est payant, même les gants en plastique. Comme je vous l'ai annoncé, c'est uniquement le prélèvement pour les moins de 5 ans qui est gratuit.
Madame Ramat Abdelkarim, en tant que mère d'un enfant drépanocytaire, quelle lecture faites-vous des témoignages que nous venons d'écouter?
C'est la réalité. Quand on a un enfant drépanocytaire, ce n'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité d'avoir les médicaments, surtout en temps de crise. Et puis vraiment, c'est, les médicaments sont coûteux. Ce n'est pas tout qui est pris en charge. C'est comme elle vient de le dire, on doit tout acheter.
D'accord. Docteur, quelle lecture aussi faites-vous de ce témoignage?
Je reconnais que ce n'est pas du tout facile, mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens, qui sont à saluer. Et je sais que au niveau du ministère de la Santé, nous recevons beaucoup de dons de médicaments. Récemment, je ne peux pas exactement vous dire, mais je sais qu'on a reçu des cartons et des cartons de perfusion. Donc actuellement au centre, les perfusions ne sont pas à acheter. Mais il y a d'autres types de sérums qu'on met pour le drépanocytaire en cas de crise qu'on est obligé de prescrire parce que ça ne fait pas partie du don que le ministère nous a donné. Et en dehors de ça, depuis la visite du ministre de la Santé l'année passée, il avait demandé de rendre gratuit le traitement du paludisme. Actuellement, aucune mère drépanocytaire n'achète l'artesoun au centre quand il est hospitalisé. Et on a essayé de gérer autant qu'on peut, même avec ceux qui viennent en externe pour se traiter, mais on n'arrivait pas à vraiment bien distribuer. On rencontrait des difficultés, ça devenait une confusion. Donc, on a dit, bon, on va donner à tous ceux qui sont hospitalisés. Et pour les médicaments de traitement de fond, ça, je ne peux en disconvenir parce que je sais que le traitement de fond, il est coûteux. Il est coûteux parce que c'est des médicaments qu'il faut prendre tous les jours et c'est pas facile. Parfois, on a même les frais de taxi pour les parents pour venir au centre. Ce n'est pas évident. Parfois, quand ils ont 2-3 enfants en crise, ils choisissent qui est le plus souffrant pour l'amener. Donc, si à cela, on doit ajouter le traitement de fond de chaque patient, une fois, je pense qu'on a essayé de faire le point sur le traitement de fond. Par mois, je pense que c'est autour de 4 000 à 5 000 par enfant. Et ça dépend du revenu des parents pour pouvoir sacrifier pour 3 enfants 5 000 de traitement de fond chaque mois. Ce n'est pas évident.
C'est donc l'occasion de faire parvenir à ces mères qu'à part les tests, il y a certains médicaments qui sont gratuits au centre.
Oui.
D'accord. Je reviens vers vous, Madame Abdelkarim. À quel stade de la maladie se trouve votre enfant?
Mon enfant est dans un stade compliqué. Elle a même fait un AVC. Elle est paralysée du côté droit. depuis 2018.
L'enfant a quel âge?
Elle avait 6 ans lorsqu'elle a fait l'AVC. Maintenant, elle a 10 ans. Mm-hmm. Chaque semaine, on a 2 séances de kiné, chaque mardi et chaque jeudi. Mm-hmm. En plus des traitements qu'on fait, les produits qu'on achète, chaque jour, elle doit prendre elle va faire un traitement.
Donc, vous devez être avec l'enfant le maximum de temps possible. Oui. Comment alliez-vous alors la drépanocytose de votre enfant et la vie de travail?
Vraiment, c'est pas facile. Surtout avant, j'étais dans un autre service, ça n'a pas du tout été facile. J'étais obligée d'abandonner, mais maintenant, actuellement, je remercie Dieu. Là où je suis, vraiment, mes supérieurs me comprennent, ils me soutiennent de tous les côtés, vraiment. Je remercie Dieu, je le remercie aussi.
Vous travaillez dans quel secteur?
Dans le secteur public de la santé.
Docteur, est-ce qu'il y a des métiers que les drépanocytaires doivent éviter?
Effectivement. Et rien que récemment, on avait une étudiante en anesthésie-réanimation qui est drépanocytaire SS et qui était hospitalisée au centre. On lui disait, bon, on ne veut pas la décourager, mais est-ce que ce serait judicieux dans l'avenir pour elle, le métier qu'elle a choisi, parce que il faut savoir qu'on peut avoir des interventions chirurgicales qui peuvent aller de 3 à 5 heures à 6 heures de temps, et que si elle doit être debout pendant 6 heures de temps, ça peut déclencher ces crises. Et c'est comme ça qu'on a aussi des drépanocytaires qui viennent chez nous, qui sont des militaires et qui font la garde à la porte pendant, je sais plus, c'est 12 heures ou combien d'heures, et on lui demandait, ils font la garde en sentinelle, tout ça. Donc, il dit que chaque fois après sa garde, ça déclenche ses crises. Donc, on était obligé de lui faire un papier pour qu'il envoie ses supérieurs, pour qu'on le redéploie dans un autre service, parce que ce n'est pas évident qu'il puisse continuer à le faire tout le temps. Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a des métiers qui ne peuvent pas être pour les drépanocytaires.
Lesquels, par
vraiment,
exemple, si vous avez une idée?
Et des métiers où ils peuvent avoir une station debout prolongée, des métiers qui vont leur demander beaucoup d'efforts. Par exemple, au village, on voit des enfants qui nous viennent des zones reculées, qui vont au champ. Parfois, ce sont des drépanocytaires SC, comme ils n'ont pas le même profil que les SS, ils ne tombent pas très souvent malades. Ils vont au champ, ils labourent, ils font la culture et tout, et après, ils déclenchent les crises. Donc, vraiment, c'est pas bien. C'est des drépanocytaires, ce sont des patients qu'il ne faut pas exposer au soleil, qu'il ne faut pas exposer à la déshydratation. Qui dit transpiration dit perte d'eau, donc ils vont se déshydrater. Et autre, il y a le fort physique fourni, et qui peut se répercuter sur le cœur. Donc, il y a tout ça. Vraiment, tout travail qui va nécessiter un gros effort n'est pas pour les drépanocytaires.
D'accord. Madame Abdelkarim, est-ce que vous avez un appui financier pour soutenir votre enfant?
Je peux dire Dieu merci avec l'aide de ma famille et mon service aussi, comme me comprend, ils m'aident, ma famille aussi, mais c'est pas facile, parce que c'est pas tout le temps qu'on a quelqu'un pour nous aider. Il y a des moments où on nous aide, parfois la personne même ne peut pas nous aider, donc on est obligé de se débrouiller comme ça. C'est pas facile.
Vous pouvez, par exemple, dans le mois, vous absenter combien de temps au service?
Ça dépend. En période de crise, ça peut aller même 3 semaines comme ça, sans aller au service.
Dans le mois? Par mois?
En période de crise.
D'accord.
On peut être hospitalisé. Par exemple, ça peut prendre une durée de 3 semaines, 2 semaines et demie comme ça. Donc, on est obligé de nous absenter, mais c'est pas dans tous les cas qu'on nous comprenne. C'est pas facile. Mais il y a des moments où les crises ne sont pas très fréquentes, on arrive à aller au service.
D'accord. Par définition, dans la méconnaissance d'une maladie, les préjugés sont nombreux. Certes, la fatigue chronique étant l'un des symptômes, les personnes drépanocytaires auront probablement besoin de plus de repos, davantage, selon Dr. Marie. Madame Leïla, quels sont les préjugés les plus courants quant à l'efficacité professionnelle de personnes atteintes de drépanocytaires, dans votre cas?
Bon, vraiment,
quels sont les préjugés dont vous êtes le plus victime?
Bon, vraiment, il nous faut vraiment beaucoup de repos. Sinon, si ce n'est pas ça, on va déclencher à chaque fois les crises. Maintenant, par exemple, moi, au service, la descente, c'est à 17h30. Je suis obligée de faire ma descente à 15h pour pouvoir me reposer.
D'accord. Donc, et les préjugés de vos collègues, employeurs, collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça?
Bon, vraiment, actuellement,
ils ne parlent pas trop de votre maladie. Ils ne trouvent pas que, par exemple, c'est injuste que vous finissiez à 15h et eux à 17h.
Non. Actuellement, je n'ai pas ce problème-là. Mm-hmm. Actuellement. Parce que quand je viens au travail, si je ne ressens pas de douleur, je me porte en bonne santé, je me mets au travail, je fais le travail comme ça se doit, comme je sais qu'il faut que je descende tôt avant eux. Donc, je dois finir mon travail avant de descendre. Donc, c'est comme ça. Ils me comprennent vraiment actuellement.
Tant mieux pour vous. Nous allons maintenant écouter le portrait de Mme Hima Fatoumata Djibo. Elle est présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose.
Âgée de 69 ans, mère de 5 enfants, Mme Hima Fatoumata Djibo est professeure de collège à la retraite. Aujourd'hui, elle est à la tête de plusieurs associations parmi lesquelles l'association de la lutte contre la drépanocytose. Une lutte qui a vu le jour en 1979 par la décision des 6 femmes dont leurs enfants souffrent de la drépanocytose jusqu'à créer cette association en 1998. Madame Hima Fatoumata Djibo nous raconte.
Je suis rentrée dans la drépanocytose parce que c'est mon deuxième fils qui est né en 79, qui est né avec la drépanocytose. Et donc, j'ai amené mon fils en consultation au niveau de l'hôpital national de Niamey, comme toutes les mères. Donc, on discutait, et puis chacune raconte ses misères, qu'est-ce qu'elle vit avec son enfant, les problèmes qu'elle rencontre, ainsi de suite. Et c'est là que l'idée nous est venue de nous rassembler pour former une association. Parce que nos problèmes sont tellement immenses, on ne sait pas par quoi commencer et par quoi finir. On s'est dit donc qu'il faut commencer. On a commencé à rédiger les textes fondamentaux de notre association. Donc on est resté 2 ans en léthargie. On a écrit, on ne sait pas quoi faire. Mais c'est en 98 que nous avons pu déposer les textes fondamentaux au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur a agréé notre demande et l'association est née comme ça en 1998. Tous les membres du bureau de l'association et même des bénévoles ont cotisé 1000 francs par mois. Et avec cet argent, là, on s'achète des médicaments que nous disposons dans un carton et que nous distribuons aux malades gratuitement parce qu'on a tellement géré des cas sociaux que ça nous fait pitié de voir des malades qui viennent de l'intérieur de la bourse. Et quand les parents viennent, ils n'ont même pas suffisamment d'argent. Ils sont hospitalisés et ils deviennent même des cas sociaux. Et nous, en tant qu'association, on gère tous les matins des cas sociaux. Donc on s'est dit, au lieu de donner l'argent aux parents, on a vu un médecin qui nous a prescrit les médicaments et que dont les malades ont besoin régulièrement et l'association les achète avec nos maigres ressources. Parfois, c'est même pas plus de 20 000 à 25 000 francs. Hein.
Les efforts de ces femmes, dont la présidente Mme Hima Fatoumata, ont fini par concrétiser l'ouverture de ces centres pour les malades souffrant de la drépanocytose en 2009.
Et on s'est trouvé au niveau de l'hôpital national où les malades étaient traités au niveau de la pédiatrie A et de la pédiatrie B. Et donc, il y avait beaucoup de malades. Les médecins étaient surchargés. Donc, on se retrouve comme ça vraiment dans un cafouillage où parfois on amène des enfants et dans des conditions d'urgence et le personnel n'est pas disposé pour les prendre en urgence parce qu'il y a d'autres malades qui sont là. Donc, on s'est retrouvé, on a réfléchi, on s'est dit il faut qu'on trouve un centre complètement spécialisé dans la drépanocytose. C'est là où on a écrit un projet qu'on a présenté au consul de Monaco et le consul de Monaco l'a agréé et lui aussi l'a présenté à la princesse Caroline de Hanovre qui est la princesse Caroline de Monaco qui a aussi agréé et elle aussi, elle a cherché un cofinancement avec le gouvernement princier de Monaco. C'est là où ils nous ont construit le centre de drépanocytose avec un personnel disposé pour accueillir uniquement les drépanocytaires, à moitié satisfaite, puisque le premier centre, il était vraiment assez grand, mais vous savez que le centre, il a été démoli, et maintenant, on a un nouveau centre qui est quand même exigu. Il y a des malades que vous allez trouver sur des chaises avec des perfusions. On voudrait alléger le coût de la prise en charge. Drépanocytose est une maladie qui coûte très cher.
Madame Hanotou est une assistante sociale au centre de la drépanocytose apprécie l'effort de Madame Hima Fatoumata Jupo.
On a des bons rapports parce que chaque fois qu'on les appelle, si on a un problème ou bien si on veut quelque chose, ils sont présents, ils viennent quoi. En tout cas, elle fait de son mieux. Hein. En tout cas, elle fait beaucoup par rapport à la drépanocytose. En tout cas, on travaille dans des bonnes conditions.
La lutte contre la maladie se poursuit, a indiqué Mme Hima Fatoumata Jupo, car leur souhait, c'est de voir la gratuité des soins au sein du centre de lutte contre la drépanocytose.
Voilà, nous venons d'écouter le portrait de Madame Hima Fatoumata Jupo. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, Madame Leila?
Bon, oui, elle a parfaitement raison parce que la prise en charge de la drépanocytose coûte excessivement cher, si je peux le dire. Surtout chez les adultes. Parce que au centre, actuellement, à part chez les enfants de 0 à 5 ans, il y a le prélèvement des examens qui sont gratuits là-bas. Mais les adultes, il faut que vous payiez tout. Mmh. Et quand tu viens au centre, en tout cas, le premier jour, chez les adultes, parce que moi, je prends l'exemple sur moi. Quand tu es dans la crise, le premier jour, tu peux dépenser de 30 à 50 000 francs. Vous voyez? Et ce n'est pas tous les parents qui peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants comme ça. Vraiment.
D'accord. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence de ce centre-là aussi?
Oui, oui. D'accord. Oui, je suis suivie même au centre. J'ai un dossier là-bas, mm-hmm. au centre.
Avez-vous quelque chose à dire sur Mme Hima Fatoumata? En tant que présidente d'une association de lutte aussi contre la drépanocytose.
Merci. Je ne peux qu'appuyer ce que Hajar Anoto a dit par rapport à Mme Hima Fatouma. Et c'est pratiquement une maman pour nous. Et on sait que depuis 1998, elles sont dans la lutte contre la drépanocytose. Et grâce à leur effort conjugué, le centre est né. Et malgré tout, elles n'ont pas baissé le bras. Et elle continue à faire des efforts dans le cadre de la sensibilisation et de l'appui des parents et des drépanocytaires. Parce que je me rappelle très bien au moment où le centre était au niveau, dans ses anciens locaux, il y avait une prise en charge des drépanocytaires adultes, effectivement, comme Leila le disait, qu'elles ont pu négocier au niveau de l'hôpital pour qu'ils puissent avoir une réduction de 80%. Sur les examens et les hospitalisations. Donc, c'était vraiment à saluer parce que ça nous aidait beaucoup à soulager nos patients adultes qu'on voulait hospitaliser et qui ne le pouvaient pas parce que il fallait payer les examens, il fallait payer les médicaments et tout. Donc, vraiment, c'était un ouf de soulagement pour eux parce que à l'hôpital, ils étaient pris à 80%. En charge, en cas de crise. Mm-hmm. Et même pour les examens de suivi.
D'accord. Madame Abdelkarim, connaissez-vous aussi ce centre et Madame Fatima?
Effectivement.
D'accord. Qu'avez-vous à nous dire sur elle et surtout ce que nous venons d'écouter?
Elle a beaucoup fait pour le centre. Elle continue aussi à nous aider. Vraiment, on est reconnaissant. Et surtout, avec l'aide de l'assistance sociale, on arrive à voir parfois les produits, les examens aussi. On nous prenait parfois en charge quand on n'a pas les moyens. Vraiment, ils font beaucoup pour nous. On remercie vraiment l'association.
D'accord. Avec la création du Centre national de référence de prise en charge des drépanocytaires, est-ce que depuis, les personnes atteintes de cette maladie peuvent aujourd'hui vivre pleinement leur vie d'adulte, vie familiale, professionnelle, etc.? Docteur Marie.
Effectivement, je veux vous dire que depuis la création du centre, les drépanocytaires adultes, vraiment, c'est le cas de Leila, elle est connue au centre depuis combien d'années? Elle a même travaillé au laboratoire du centre en tant que stagiaire. Donc, c'est pour dire que vraiment, avec le suivi, comme je l'ai dit antérieurement, le suivi régulier et la prise des médicaments, ils arrivent à finir leurs études, à travailler. Je ne peux pas vous dire le nombre de drépanocytaires adultes qui travaillent dans l'administration et qui sont des fonctionnaires. Et pour ne prendre que l'exemple du centre, notre gestionnaire, elle est drépanocytaire SS, elle a 57 ans. C'est hier qu'elle me disait qu'elle a 57 ans. Je lui disais, non, moi je pensais que tu avais 52. Elle me dit, non, j'ai 57 ans. Mmh. Et qui travaille. Et vraiment, c'est vrai, elle a ces périodes de crise, mais elle est comprise. Donc vraiment, je me dis que tout est basé sur le suivi. Tout est basé sur l'observance, si je dois le dire, du suivi.
D'accord. Je Merci. Continue toujours avec vous, docteur. Quelle solution envisager pour permettre à une meilleure vie de travail et de maladie?
Pour revenir, comme je l'ai dit, sur le coût du traitement, elle est vraiment, vraiment, ce n'est pas facile pour tout le monde de se le permettre parce qu'actuellement, nos drépanocytaires dans le monde entier, il y a des avancées de la science qui permettent d'avoir d'autres traitements pour la maladie, allant de traitements et de fonds pour soulager les crises, aux traitements complètement de curatif définitif de la maladie, mais qui n'est pas accessible actuellement ici. Donc, pour le traitement de fond, nous avons l'hydroxyurée, qui est l'hydrea, communément appelée, qu'on donne à nos patients drépanocytaires et pour les aider à réduire le nombre de crises et la survenue des complications qu'ils ont. Mais ce médicament aussi a un coût, parce que le prix de la boîte varie de 5 500 dans les pharmacies où ça coûte le moins cher à 12 000 francs. Et c'est une boîte de 20 gélules. Et il faut le prendre tous les jours. Et surtout chez les adultes, il faut prendre parfois une gélule matin et soir. Ça veut dire que la boîte fait 10 jours. Et s'il faut prendre 3 boîtes dans le mois, ça fait par exemple 6 000 francs fois 3, ça fait 18 000 francs en plus du traitement de fond. Donc ça a vraiment un coût. Et pour les autres traitements qui est la greffe de moelle, il faut d'abord trouver dans la famille un donneur, sinon on cherche un donneur compatible. C'est pas disponible pour le moment au Niger. En Afrique, je pense qu'il y a le Nigeria qui a fait son premier greffe. Et ça a un coût variant de 30 000 dollars à 150 000 ou 200 000 dollars. Donc si on convertit en CFA, on est parti dans les 125 millions. Voire 150 millions, et vraiment ce n'est pas facile. Même pour un fonctionnaire de réunir ce montant à plus forte raison, parfois c'est des mamans ou des parents démunis qui n'ont pas vraiment, ou qui font des petites activités régénératrices de revenus et qui ont 4-5 enfants drépanocytaires. Donc pour le moment, si je peux le dire, au Niger, nous avons l'IDREA vraiment qui est là dans les officines. Mais on est confronté par le coût qui constitue vraiment un vrai obstacle dans la prise en charge. Et dans ce sens, nous essayons de lutter avec la directrice pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons avoir ce médicament à moindre coût, et comme l'a fait d'autres pays tels que le Mali, où ils ont pu avoir une subvention de l'État et ils ont fait produire l'IDREA. Je pense que c'est en Inde. Et c'est un médicament donc qui est subventionné et qui coûte moins cher dans le centre, le CRLD, le centre de prise en charge du Mali, et qui coûte 3 500 la boîte de 100 gélules. Donc 100 gélules, ça fait 3 mois de traitement pour 3 500.
Oui.
Donc c'est vraiment soulageant pour les patients par rapport à... ici où ils doivent l'acheter dans les pharmacies privées, et la boîte de 20 gélules coûte 6 000 francs.
Mais est-ce qu'il y a des démarches faites justement pour soulager les patients dans ce sens?
Je sais que la directrice, vraiment, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle en a même parlé, je pense, au cours d'une réunion. Elle a vu l'ONPPC, etc. Vraiment, elle est dans les démarches pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut avoir ce médicament à moindre coût.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Madame Laïla, selon vous, quelle solution il faudra envisager pour permettre à vous, les personnes vivant avec la drépanocytose, d'avoir une meilleure vie de travail?
Vraiment, pour ça, il faut que, comme le docteur l'avait dit, il faut faire des sensibilisations aux différents secteurs, publics ou privés, pour qu'ils nous comprennent. Parce qu'en réalité... si je peux dire, la drépanocytose, c'est une maladie que c'est maintenant que les gens commencent à comprendre c'est quoi même cette maladie. Avant, les gens ne connaissaient pas ça. Donc, c'est pour cela il y a des difficultés au niveau du travail pour que les gens nous comprennent. Ils pensent que c'est juste on veut pas travailler ou bien quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça.
Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour vous croire et vous donner votre place?
Voilà. Donc, pour ça, il faut vraiment l'aide du gouvernement. Déjà, il y a les sensibilisations qui passent maintenant. Donc, les gens arrivent à comprendre ça. Donc, avec ça, dès que tu arrives à ton service, le premier jour, tu te présentes avec tes papiers, avec tes numéros de dossier. Là, ils peuvent comprendre. S'ils ne croient pas, vous leur donnez un numéro d'un docteur du centre. Comme ça, la personne va l'appeler pour s'assurer de ça. Et le gouvernement aussi doit nous appuyer sur ça. Vraiment. Parce que vraiment, on souffre. Au niveau des travails, vraiment, on souffre. Vraiment. Moi, j'étais, comme je l'avais dit, j'étais une fois obligée de résilier un contrat à cause de ça. Parce que les gens ne comprennent pas.
Madame Abdulkarim, vous êtes mère d'un enfant drépanocytaire. Aussi, vous travaillez. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer la vie des personnes qui travaillent avec un enfant drépanocytaire?
Dans un premier temps, la sensibilisation, c'est très important. Quand les services vont comprendre la maladie, tout le monde comprend la maladie. Si ils sont bien sensibilisés, vraiment, on va nous comprendre. Donc, on va nous soutenir. Là, ça va améliorer notre capacité. Dans un deuxième temps, comme ça existe des produits qui font que la crise est réduite, donc si le gouvernement peut nous faciliter l'accès de ces produits, nous, je ne sais pas, financiers, pour que les produits soient moins chers, ou bien les prendre même à 100% en charge, si on a les produits, les crises seront moins nombreuses. Par exemple, si l'enfant peut faire la crise chaque mois ou bien chaque deux semaines, avec les produits, les crises vont diminuer. Il peut avoir 6 mois ou bien 4 mois sans faire de crise, ou bien 1 an même, ou 2 ans, ou bien au-delà de ça même. Quand l'enfant fait moins de crises, donc on serait plus à l'aise à faire notre travail, on serait actif, on serait toujours présent. On va faire notre travail normalement, comme tout le monde.
D'accord. Nous sommes au terme de ce forum. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce qui ressort de cette discussion, c'est que d'après une bonne prise en charge de la maladie, les personnes travaillant et vivant avec la maladie et ou les personnes qui travaillent avec des enfants malades de la drépanocytose peuvent très bien mener une vie meilleure avec une prise en charge. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un autre thème du forum Espace Femmes du studio Kalangou. Place maintenant à notre rubrique Loti qui sensibilise en humour. Je suis Rafika Taher à la présentation, à la technique Séni Isaka. Excellente soirée à tous, au revoir.
Affairage, 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 affairage. Affairage.
Zouaira,
oui, Tanti.
Viens là. Pourquoi la maison sent le poisson comme ça? Ou bien tu n'as pas bien lavé la serpillière?
Si, Tanti.
Apporte-moi vite un peu de braise pour mettre de l'encens. Comme toi, tu ne sais pas le faire.
Tanti, je voulais le faire après ma lessive.
Hey, donne-moi juste ce que je t'ai demandé. Voilà, sens comment c'est bon. Je retrouve enfin mon salon. D'ailleurs, je rajoute encore. Zouaira, viens m'augmenter les braises.
Tanti, c'est beaucoup, hein? Il y aura trop de fumée, ça rentre même dans mes yeux.
Est-ce que ça te regarde?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Eh, ma cocotte, qu'est-ce que tu fais sous ce soleil ardent?
Je fais une course, ma chérie, dans le quartier et j'ai voulu te faire une surprise.
En tout cas, c'est réussi. Comment tu vas? Et ta famille? Le boulot?
Alhamdulillah, tout va bien. Et de ton côté?
Ça va aussi très bien.
Mais ma cocotte, ton enceinte là, mais tu as mis de trop. Tu vas nous asphyxier.
Non, ça ne fait rien, toi aussi. C'est toujours comme ça que je mets mon encens. Comme ça, ma maison sentira très bon toute la journée. N'incrimine pas mon encens pour ta toux. J'espère seulement que ce n'est pas Covid que tu m'as amené.
Hey, tu vois, là, moi, là, tout là, ça m'empêche même de m'exprimer. Là, c'est trop, ma chérie. Non, 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 c'est la fumée seulement. J'ai pas la Covid. Mais toi, tu ne sais pas que la fumée d'encens dégage de l'air des substances toxiques pour l'organisme, des particules fines, nocives pour les voies respiratoires et les poumons. Habakeko.
Toi, tu recommences avec tes histoires à dormir debout là, madame la connaisseuse.
Hé, hey, écoute, c'est très dangereux de faire ça, surtout qu'il y a des enfants dans la maison. Ils sont plus fragiles que nous.
Les femmes mettaient de l'encens depuis la nuit des temps. Nos mamans aussi. Et personne n'en est mort.
Ne parle pas comme une ignorante, s'il te plaît. Tu sais, l'encens là, c'est des morceaux de bois avec des produits synthétiques. Dès que ça rentre en contact avec le feu, des substances toxiques sont émises dans l'air et nuisent à la santé.
Madame la scientifique.
Hé, hey, ma chérie, attends. Je te raconte une histoire. Tu connais ma voisine Chic-Chic là? Celle qui met l'encens matin et soir, midi, pire que toi?
Ah oui, elle sent toujours très bon, la dame là. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est elle.
Voilà, tu as bien compris. Elle est présentement très malade, avec des problèmes respiratoires chaque fois.
Subhanallah, elle avait l'air bien en forme.
Selon sa famille, les médecins lui ont indiqué qu'elle a humé beaucoup de fumée et ses poumons n'ont pas pu supporter.
Elle fumait chicha donc?
Pas du tout. C'était à cause de son encens. Et aujourd'hui, elle n'utilise plus ce genre de parfum.
Mon Dieu, comment je vais faire pour que ma maison sente bon alors?
Tu sais, il n'est pas dangereux d'utiliser l'encens, à condition de l'utiliser avec modération.
Si je comprends bien, c'est quand on abuse que c'est dangereux alors.
Tu as bien compris. Quand une maison est propre et bien entretenue, pas besoin d'enfumer les gens, vraiment. L'encens brûlé sur de la cendre chaude dégage moins de fumée que s'il est brûlé sur des braises vives. Aère bien la pièce pendant et après la combustion. C'est la petite fille manga qui te parle, ma chérie.
Toi, d'accord. Merci pour tes conseils, la petite fille manga. Zouera, viens prendre l'encensoir là. Je ne vais pas rendre mon mari et mes enfants malades pour rien.
Tanti, je vous avais dit que la fumée était beaucoup, non?
Hé, hey, quitte là-bas.